¿Cómo podría yo tomar personalmente la dirección de un movimiento de emancipación?
Товарищи, рабочей крестьянской революции, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилось! Ура!
L'histoire m'a donné raison, mais pas les hommes. Ça, c'est une très grosse différence entre l'opinion des gens et puis les faits. Et alors, dénoncer avec violence, il suffit de dire simplement que vous allez tomber dans un précipice. C'est violent. Si vous dire, monsieur, avancez, je vous en prie, vous êtes sur une jolie pelouse et vous marchez gentiment devant vous, ne vous occupez pas du reste.
De Monsieur Sinalco.
Bonjour Monsieur Sinalco.
Bonjour.
Vous nous parliez il y a quelques semaines des premières expériences du salariat urbain avec les heures de travail fixes annoncées par les cloches de travail.
Effectivement. Et si les cloches de travail sonnaient à heure fixe les appels au travail, il est clair que seule une invention aussi merveilleusement terrifiante que l'horloge pouvait imposer au temps des humains l'exactitude de l'heure et par conséquent du temps donné à travailler. Elle seule pouvait imposer, avec les exploiteurs, dans son découpage minutieux des heures, que le temps payé soit rigoureusement équivalent au temps travaillé.
Ces horloges s'imposent donc dès la fin du Moyen-Âge et correspondent en tout point à une demande des donneurs d'œuvres de définir plus précisément le temps de travail.
L'horloge est de fait l'invention qui permit de répondre de façon adéquate aux velléités de travail à heure fixe dans l'espace urbain. Mais elle fut surtout l'instrument de domination du temps qui s'imposa de manière plus générale dans tout le rythme de la vie des habitants des villes. Instrument de pouvoir donc, comme le comprit bien Charles V, qui ordonna de régler toutes les horloges du royaume sur celles du palais royal en 1370. L'innovation technique que représente l'horloge mécanique a ainsi un intérêt légitime aussi bien pour le bourgeois, le patron, que pour le seigneur, le roi. Si elle sert au premier à administrer le travail, elle permet au second de prendre le contrôle sur la vie. Charles V ordonna ainsi que les heures soient sonnées sur l'horloge du palais, imposant aux habitants de Paris la journée sectionnée en 24 parties égales.
Y a-t-il pour autant une unité temporelle universelle au XIVe siècle ?
Il est évident que l'horloge, victime de panne et de retard, ne pouvait encore imposer une expression linéaire du temps qui soit identique pour tous et dans toutes les villes de l'Occident. Il s'agissait pour les tenants du pouvoir de re-régler les horloges après réparation. Les horloges n'étaient pas uniformément réglées d'une ville à l'autre. Le début des 24 heures n'intervenait pas au même moment. L'horloge hydraulique du XIIIe siècle fait place à l'horloge mécanique du XIVe siècle dans l'Occident chrétien. Avec l'horloge mécanique s'impose peu à peu l'exactitude du temps. De plus, le XIVe siècle voit l'apparition des cadrans et des aiguilles, surtout de l'aiguille des heures, l'aiguille des minutes n'intervenant que plus tard dans l'histoire de l'horloge. En plus de sonner les heures, elle commence à exprimer visuellement l'écoulement du temps. Dans la précision minutée que les techniques de fabrication d'horloges permettront par la suite, elle inscrira définitivement, à côté du temps découpé par le jour et la nuit ou par les saisons, celui d'un temps plus spécial, scientifiquement quantifiable. Le temps mesurable spécifique à la science est capturé par elle, mais érigé en temps universel sur lequel tous devront s'accorder. On voit aujourd'hui à quel point cette fiction est devenue co-naturelle à l'homme et à la femme.
L'horloge représente donc une invention décisive dans l'asservissement des travailleurs à une discipline.
On ne peut qu'adhérer à la thèse de Lewis Mumford selon laquelle la machine décisive de l'époque industrielle est l'horloge, plus encore que le chemin de fer. Parce que, Contrairement à des machines construites et utilisées par la société industrielle, l'horloge est la machine sans laquelle il n'aurait pas été possible de travailler dans la contrainte du temps exact sur toutes les autres machines.
Mais j'ai l'impression que l'horloge, dans ses siècles de développement, fait également passer les travailleurs, notamment les artisans, d'un régime où c'est ce qui est fabriqué qui rythme le travail, à un régime où c'est le temps qui rythme l'ouvrage. Dans nombre de corporations, le travail se divise jusqu'au XVIIe siècle en phases de plusieurs jours de grand labeur, suivis de périodes d'oisiveté, notamment quand le lundi et le mardi deviennent Saint-Lundi et Saint-Mardi.
Exactement. Si vous me permettez ce saut temporel, j'aimerais parler plus spécifiquement des changements dans l'encadrement du temps de travail au XVIIIe siècle, qui représente, du moins pour beaucoup d'historiens, la transition vers le capitalisme industriel. Et dans le cas qui nous intéresse, la discipline par rapport au temps de travail. Dans les industries manufacturées de haute technologie telles qu'on pouvait en trouver en France ou en Angleterre, les contremaîtres commencent à tenir pour chaque employé des fiches horaires à la minute près. Avec, évidemment, noter l'heure d'entrée et l'heure de sortie dans l'usine.
Le début du pointage, en somme.
Exactement. Pour lutter contre les petits malins qui bougeaient les aiguilles sur l'horloge, celle-ci est mise sous clé, pour que seul le patronat puisse tricher sur l'heure véritable. L'exactitude des horloges avait en outre fait un grand pas en avant au XVIIe siècle avec l'introduction du balancier dans le mécanisme.
C'est dans ce cadre, dès le début du XVIIIe, que la discipline proprement capitaliste prend forme.
Et de fait, elle se traduit dans le travail à l'usine par les fiches horaires dont nous venons de parler, mais aussi par les amendes distribuées aux retardataires et aux tirs au flanc, ou encore par les mouchards. L'ordre disciplinaire basé sur la ponctualité, érigé en valeur fondamentale dès l'école, prend forme. Voyez à quel point la ponctualité est perçue aujourd'hui comme une qualité, et le retard, par exemple, à un rendez-vous comme un manque de savoir-vivre et de concernement.
Oui. Mais qu'en est-il de l'histoire de la montre individuelle ? À quel point s'est-elle imposée au sein des classes laborieuses et à quelle époque ?
La montre individuelle apparaît certainement en Italie, dans la seconde moitié du XVe siècle. Mais son manque de précision reste criard aussi longtemps qu'elle reste montre de gousset. Lorsque la montre individuelle devint véritablement instrument de mesure précise du temps, au XVIIIe siècle, elle était trop coûteuse pour que les ouvriers puissent en acheter. Mais on peut lire un changement dans la dernière décennie de ce XVIIIe siècle, qui correspond d'ailleurs en tout point à une demande de meilleure synchronisation du travail par la révolution industrielle. La montre devient alors une marchandise au prix abordable, en même temps qu'elle devient un objet de nécessité plutôt qu'un objet de luxe. Si la montre ainsi démocratisée permettait à chacun de s'imposer une discipline dans sa vie et à son travail, au point que le rapport au temps devienne une sorte de seconde nature de l'être humain, pour certains commentateurs, elle était souvent confisquée aux ouvriers sur leur lieu de travail, pour ne pas faire contrepoids à l'horloge officielle et autocratique du patronat.
Merci, Monsieur Sinalco.
Mais merci à vous.